J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été une compagnie au 14 ans. Je pense que en combinant les deux, la suite de mes précédents, pour faire une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce numéro par nos auditeurs. Regarde la conférence de Cancun qui s'est tenue la semaine dernière au Mexique sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous allons parler de changement climatique. Cette rencontre était la 16e des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La rencontre s'inscrivait dans le prolongement des négociations des Nations Unies destinées à mettre sur pied un mécanisme international pour lutter contre le changement climatique. Selon le 4e et dernier rapport du groupe des experts internationaux sur le changement climatique, la température mondiale a augmenté de 0,75°C depuis un siècle et devrait augmenter de plus de 1,1 degré à 6,4 degrés d'ici 2020 avec une valeur moyenne comprise entre 1,8 et 4 °C. Selon les experts, cette augmentation de température aura des conséquences préoccupantes sur l'homme et son environnement, et cela même est déjà ressenti actuellement, par exemple des vagues de chaleur plus intenses, fortes pluies plus fréquentes et denses, cyclones, typhons, ouragans plus intenses, avec des vents, des précipitations violentes, sans oublier des inondations, ainsi que la baisse de la ressource en eau potable. Comment pouvez-vous contribuer dans la lutte contre le changement climatique? Nous avons invité pour vous M. Léon Kanoubidi, le coordonnateur du Programme national pour la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts. Ce programme est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Il y aura Nicole Ndaka qui sera à la réalisation, Marie-Chantal à la présentation et Dieu de Nyangasa à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à ca@radiotapis.net.
Encore une fois, bonjour, notre invité est déjà en studio. Bonjour, monsieur Léon Kanoubidi.
Bonjour, mon nom c'est Léon Kanoubidi.
Oui, avec Z, hein.
Oui,
merci pour cette correction. Aujourd'hui, nous allons parler de changement climatique qui s'est tenu à Cancun, au Mexique, une conférence sur le changement climatique, c'est la 16e du genre. Vous étiez présent à cette conférence. Quelles ont été les grandes décisions, en fait, qui concernent aussi la RDC?
Les grandes décisions ne concernent pas seulement la RDC, mais concernent en fait le climat mondial, parce qu'on s'est réunis pour essayer de sauver le climat mondial. Mm-hmm. Cancun était en fait une réunion de transition, on n'attendait pas de grandes décisions, parce que le chemin était déjà tracé à la réunion de l'année dernière,
de Copenhague,
où on a pris un certain nombre de décisions, mais qui n'ont pas abouti. Et à Cancun, on voulait que les différents dossiers puissent progresser. Les différents dossiers, c'est quoi, en fait, lorsque vous regardez la conférence des Nations Unies? C'est que le climat se dégrade. Pourquoi le climat se dégrade? Tous, nous avons une responsabilité dans la dégradation du climat, mais cette responsabilité est différenciée. Mmh. Différenciée pourquoi? Parce que nous n'émettons pas la même quantité de gaz à effet de serre qui provoque le chauffement de l'atmosphère. Mmh. Donc, ceux qui ont commencé à émettre des grosses quantités de gaz à effet de serre depuis longtemps, nous estimons qu'ils ont plus de responsabilités que nous. Mmh. Alors, ces pays-là, ils se sont développés. Les pays en voie de développement disent, vous devez nous aider aussi à lutter contre les changements climatiques qui sont en train de perturber
le principe de pollueur-payeur.
C'est ça.
Et donc, avec Cancun, maintenant, il y a eu des avancées?
Oui, il y a eu des avancées. C'est qu'au niveau des négociations entre les deux conférences, les équipes continuent à travailler. On a préparé un document des négociations. Négociations, pourquoi? Parce que chacun a des responsabilités, mais ne voudrait pas aller au-delà de ses responsabilités. Ceux qui doivent payer, on leur dit, bon, vous êtes responsables et vous devez payer, mais eux aussi disent, oui, nous sommes responsables, mais si vous regardez tous les pays développés maintenant, ne représentent plus qu'environ 30% des émissions. Les pays en voie de développement ont maintenant pris le dessus. Aujourd'hui, c'est la Chine qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, ils disent, oui, nous voulons continuer à assumer des responsabilités, mais les nouveaux venus aussi doivent assumer des responsabilités.
Équilibrer les voilà, responsabilités. Et dites-nous ici, en RDC, quels sont, au niveau de la RDC, est-ce qu'il y a déjà des effets du changement climatique?
Oui, je ne dois l'apprendre à personne. Partout, même dans les régions est du pays qui est reconnu pour une température basse aujourd'hui, partout, la température est en train de monter. Les gens se plaignent partout des températures. Les gens se plaignent des perturbations du climat, c'est-à-dire il ne pleut plus à une date précise. Les saisons ne sont plus respectées, donc il y a des perturbations qui font que celui qui fait l'agriculture ne sait plus exactement à quel moment il faut s'aimer pour être à l'abri justement des aléas du climat. Donc, tout le monde est touché, tout le monde est concerné.
Il y a des degrés différents apparemment, parce que quand même s'il fait chaud, il est encore vivable.
C'est encore vivable, mais c'est là où il faut à des degrés divers, c'est-à-dire que tous, si nous sommes à Kinshasa, tous nous souffrons la même température. Mais il y a des personnes qui sont capables de construire des maisons climatisées, donc en fait de se protéger contre ces phénomènes-là, et d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là. C'est à ce niveau-là aussi que se trouve en fait la différence entre les pays développés et les pays en voie de développement. C'est que même lorsqu'il y a changement climatique, les pays développés sont capables de se protéger, mais les pays les moins développés comme nous n'avons pas les moyens de nous protéger et nous disons, donnez-nous aussi des moyens, donnez-nous des technologies, donnez-nous des financements pour que nous soyons capables de nous protéger.
Oui, mais aussi, quels sont ces gaz? Parce que souvent, on parle des gaz à effet de serre, mais pour le commun des mortels, pour le citoyen lambda, comment est-ce qu'il peut savoir que ça, si cet appareil peut émettre des gaz à effet de serre ou pas du tout? Est-ce que tu peux donner quelques exemples des instruments ou bien des gaz que l'homme peut produire en RDC ou le commun des mortels pour qu'il puisse comprendre c'est quelle sorte de gaz en fait?
Donc les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui ont le pouvoir de retenir la chaleur qui vient du soleil et de commencer à l'émettre. C'est ça qui fait qu'il provoque l'augmentation de la température. Mais il y a six gaz à effet de serre. Mais celui qui est le plus connu, c'est le CO2. L'hydroxyde de carbone, qui déjà nous tous en respirant, nous émettons du CO2. Dès que vous brûlez la moindre chose, vous émettez du CO2. Vous brûlez la biomasse, donc la forêt, l'agriculteur qui défriche, abat les arbres, le brûle, il émet du CO2. Donc voilà un gaz où presque tous nous sommes en train de mettre du CO2 dans l'atmosphère.
C'est inévitable.
C'est inévitable, effectivement. C'est pour ça que nous disons que la responsabilité est commune. Donc chacun est responsable de l'émission des gaz à effet de serre.
Mais aussi, à part cette émission, à travers la respiration, l'expiration aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres gaz qui peuvent être émis par autre chose, que soit brûler, soit respirer?
J'ai commencé à le citer. J'ai cité l'incinération de la biomasse, qui donne aussi du CO2. Tous ces véhicules qui sont en train de circuler, ils sont en train de brûler du carburant. Là aussi, ça produit du CO2. Il n'y a pas seulement que le CO2 dans le volume de gaz qu'ils émettent, mais nous épinglons le CO2 comme principal gaz à effet de serre. Mais sinon, vous avez aussi le méthane qui doit provenir de la putréfaction de la matière organique, c'est tout de suite vous émettez du méthane, qui lui aussi c'est un gaz qui s'accumule dans l'atmosphère et classé parmi les gaz à effet de serre.
Et heureusement qu'il y a quand même un mécanisme d'absorption du CO2 par la photosynthèse et la forêt. Est-ce que ça peut réguler les choses?
Ça peut réguler les choses et ça régule les choses. Mm-hmm. C'est pour ça que sans le savoir, vous allez trouver que dans les parcelles, on plante des arbres. On ne sait pas pourquoi, mais parce qu'il y a une symbiose entre l'arbre et les humains. Lorsque nous respirons, comme je l'ai dit, nous émettons du CO2. Donc, c'est un déchet pour nous. Mais tandis que pour l'arbre, c'est une nourriture. Grâce à la photosynthèse, donc en présence du soleil, les arbres ont la possibilité de capter maintenant le CO2, de les scinder en deux. Ils absorbent le carbone et libèrent l'oxygène dans l'atmosphère, l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Voilà pourquoi nous sommes côte à côte, pour que ce qui est déchet pour l'un serve de nourriture à l'autre.
Et en fait, c'est cet équilibre qui a été un peu rompu, parce qu'il y a maintenant plus d'émissions de par exemple de CO2 et moins d'absorption.
Voilà, donc nous n'avons plus suffisamment d'arbres pour recycler tout le CO2 qui est en liberté dans l'atmosphère. Mm-hmm. C'est pour ça que vraiment, il faut mettre le mécanisme en place. Il faut planter plus d'arbres qu'on l'a fait jusqu'à maintenant pour restaurer cet équilibre qui a été rompu.
Oui, Monsieur Sanondizi, nous vous gardons, le temps d'écouter nos auditeurs. Il y a Yves de Béni, Agnès de Vitavou, et aussi nous aurons Monsieur René Ngongo de Greenpeace, qui est une structure, une ONG, qui se bat l'environnement, dans le domaine de l'environnement. Mais avant cela, nous allons suivre ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Yves.
Yves?
Oui, vous êtes à Béni. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Yves, dites-nous, vous avez suivi notre invité, il a essayé d'expliquer ce changement climatique, d'où ça vient, les causes, mais à votre avis, comment nous pouvons lutter, comment vous, dans votre milieu, vous pouvez lutter, contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Oui, vraiment, c'est un bon sujet. Je remercie beaucoup à Radio Capi pour avoir choisi ce sujet. Mais nous avons aussi un problème, parce que vous comprenez que la RDC, qui est maintenant le deuxième pays au monde après le Brésil, en matière de la forêt. Mais qu'est-ce que nous gagnons ça, monsieur le ministre? Bon, le problème, c'est quoi, c'est-à-dire, il y avait la conférence de Cancun, il y avait aussi la conférence de à Copenhague. Nous, ne gagnons pas rien. Oui, mais gagner un pays, mais je ne sais pas pourquoi, parce que tout ça, tout ce que le Congolais gagne.
Mais à votre avis, qu'est-ce qui pouvait être fait du fait que nous soyons le deuxième réservoir au monde avec la forêt équatoriale?
Oui, c'est ça. Nous, parce que nos représentants qui vont prendre la conférence, ils n'ont pas d'argument pour en faire convaincre. Parce que vous allez comprendre que les pays, j'avais dans les journaux, les pays comme le Gabon bénéficient des taxes de carbone, mais nous, parce qu'il n'y a pas de représentants qui vont avec un objectif défini. Nous, on a gagné le poste qui est là. Parce que, là, nous, c'est chez nous, par exemple. Nous sommes en train de voir un pays des bois qui sont exportés par des commerçants, plusieurs bois. Est-ce qu'on ne plante même pas? Ça prouve que vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment de grands problèmes sur ça. Même d'aller ici chez nous à l'Est, on doit contrôler les reboisements, Et mon politicien aussi doit aller dans des conférences avec un objectif bien déterminé pour que nous puissions bénéficier de ça. Mais, en réalité, on y va sans progrès organisé, c'est pour qu'on nous sommes perdants. Et cette forêt-là nous a passé, nous comprenons.
Oui, nous aurons plus de précisions pour savoir ce que le gouvernement congolais a proposé en rapport du fait d'abord que la RDC a une grande forêt. Heureusement que nous avons dans ce studio quelqu'un qui est parti à Cancun, qui a aussi représenté la RDC. Il pourra nous dire ce qu'a été en fait les enjeux au regard de ce que la RDC a comme richesse. Merci Yves de Béni. Bonjour Aganzi.
Ok, bonjour, c'est Aganzi Machumiko de Bukavu.
Oui, à partir de Bukavu, comment vous pensez que vous pouvez contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Ok, merci madame, j'aimerais parler sur les volets, mm-hmm. Et je dois dire, moi, j'aimerais demander aussi une question par après.
Mm-hmm.
Au fait que moi, je vais digérer à la population de Bukavu, la population doit éviter les reboisements, surtout parce que nous voyons ce qui cause cela, c'est le fait de reboiser les gens comme des arbres et ils ne parlent pas d'autres. Maintenant, j'aimerais demander à l'invité parce que nous, j'ai appris qu'il y a des dons qu'on envoie, or nous ne voyons pas les dons et cet argent fait quoi? J'aimerais demander à l'invité que cet argent qu'on envoie partout d'ailleurs dans toute la République, que ça soit affecté dans toutes les provinces.
Est-ce que vous pouvez donner plus de précision? Vous parlez de dons. Quels dons précisément?
Parce que j'ai ouï dire que j'attends souvent qu'on envoie des dons pour éviter ces fléaux, pour que ces fléaux n'arrivent pas dans la République, comme vous avez dit, du réchauffement.
Donc, vous avez appris qu'il y a certains appuis pour pouvoir, si on peut dire, promouvoir le reboisement et aussi la sensibilisation, mais vous constatez que ces appuis-là ne sont pas arrivés à Bukavu.
En tout cas, je peux dire la vérité que ces appuis n'arrivent pas. Bon, je ne peux pas y aller trop dire et parler, surtout concernant les fonds. Mais j'aimerais poser la dernière question à l'invité,
mm-hmm.
Parce qu'ici à Bukavu, nous vivons dans une inquiétude concernant les lacs du Kivu. Il y a les gaz qui peuvent être créés, donc qui peuvent se manifester dans les lacs du Kivu. J'aimerais demander, parce que nous vivons dans l'inquiétude, madame, l'invité peut nous donner les normes. Puis, quelles sont les normes qu'on peut prendre en fait que nous puissions éviter que ces gaz ne puissent pas créer de grandes normes ici à Bukavu.
Merci, Gandhi de Bukavu, pour votre intervention. Bonjour, monsieur René Ngongo.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes de Greenpeace, une structure qui travaille dans l'environnement. Dites-nous, vous avez aussi appris ce qui s'est passé à Cancun et aussi ce qui se passe, les conséquences en RDC liées au changement climatique. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait quand vous travaillez longuement dans ce domaine et vous y êtes toujours, qu'est-ce qui peut être fait pour contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Merci, madame. Je crois que tout le monde en RDC vit le changement climatique, ne serait-ce que par les réchauffements, mais il y a aussi des perturbations au niveau des saisons culturelles. Ça fait que cela nous pousse dans les problèmes d'insécurité alimentaire.
Mm-hmm.
Mais ces perturbations climatiques ont des impacts sur la santé, parce qu'il y a des endroits où jadis il n'y avait pas de moustiques. Mais à cause de températures élevées, les moustiques sont un peu partout. Ça fait que les maladies qui étaient inconnues, refont surface.
Mm-hmm.
Donc, c'est vous dire que le changement climatique, c'est une réalité. Et on a, comme l'invité du jour, que je salue, a bien posé la problématique, c'est lié à toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Et depuis très longtemps, depuis que Greenpeace a commencé en 71, on a fait que tirer la sonnette d'alarme sur l'industrialisation sauvage qui est à l'origine de la pollution, donc cette pollution qui produit des gaz à effet de serre.
Mm-hmm.
Mais les scientifiques ont montré que 20% de ces émissions proviennent de la déforestation et la dégradation. D'où l'importance, vous avez compris, que la forêt joue un rôle dans le cadre de la séquestration du carbone, mais malheureusement, au lieu de jouer cette fonction importante, la dégradation de nos forêts, malheureusement, à l'émission des gaz à effet de serre.
Mm-hmm.
Et par cette solution, aujourd'hui, je pense que l'invité pourra revenir sur ces questions parce qu'il est coordonnateur de la RED, la République démocratique du Congo,
mm-hmm.
sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre liées essentiellement à la déforestation et à la dégradation. Donc il faudrait une analyse pertinente sur les moteurs de déforestation en RDC. On a cessé de le dire que l'industrialisation forestière couplés à l'exploitation artisanale sont parmi les principaux moteurs de la déforestation. Parce que nous disons que ça ouvre les routes dans ces forêts et ça attire d'autres acteurs qui viennent exploiter ces forêts. Ça fait que ça contribue à la déforestation. Et toute la stratégie actuellement en République démocratique du Congo doit viser à réduire sensiblement la déforestation. Il est vrai que les communautés, parce que vous avez dit qu'il faut parler des communautés, doivent être impliquées à toute la sensibilisation, de manière à ce qu'elles participent à tous ces programmes de reboisement, mais aussi, il faut qu'il y ait des alternatives, parce que maintenant, comment comprendre un pays comme le nôtre qui a des potentialités hydroélectriques énormes, des potentialités sur l'énergie solaire énormes, que plus de 90% des communautés, des populations congolaises dépendent encore du bois énergie. Donc ça, c'est parmi les causes qui expliquent que la déforestation persiste, la carbonisation, vous voyez le nombre de sacs, des macalas, des brèves qui entrent à Kinshasa, mais dans les différents centres urbains, ça vous donne la chair de poule.
Oui, mais au niveau de votre structure, quelles sont les alternatives que vous avez proposées?
Oui, nous, on a toujours dit qu'il faut réduire sensiblement l'impact de l'exploitation industrielle. Il y a des zones à haute valeur de conservation, des paysages de forêts intactes qu'il faudrait préserver justement pour que ces forêts puissent jouer les rôles de séquestration de carbone. Et à ce moment-là, c'est une valeur ajoutée à ces forêts que nous pouvons présenter demain, madame, comme ressource, parce que tous les débats visent actuellement à apporter des moyens pour la préservation de ces forêts. Et nous, depuis plusieurs années, nous nous battons pour la préservation de ces poumons de la planète.
Mais quelles sont les propositions pour ces habitants? Vous leur demandez, par exemple, de pouvoir protéger les forêts. Quelles sont les propositions que pour alterner, enfin, pour trouver une autre solution? Parce qu'ils sont obligés, 90% de la population, on peut dire que la forêt constitue plus de 90% de moyens de subsistance pour les populations qui vivent aux alentours. Et quelles sont les propositions que vous faites, par exemple, au gouvernement à ces populations pour pouvoir protéger ces forêts?
Tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes énergétiques et il y a des solutions. Nous avons des potentialités hydroélectriques. Il faut dire qu'on arrive à disponibiliser l'énergie électrique. Même dans les grands centres comme Kinshasa où il y a l'énergie, vous pouvez compter le nombre de quartiers qui ont l'électricité en permanence. Alors, on ne peut pas imaginer que l'impact de l'absence de l'énergie électrique sur les forêts. Donc ça, c'est parmi des solutions. Et on peut, partout dans le pays, avoir des sources énergétiques. On peut aussi exploiter l'énergie solaire parce que nous en avons à revendre. Il y a toutes ces questions. Mais nous disons aussi, parce qu'on ne peut pas d'un côté faire la promotion de la préservation de ces forêts et de l'autre côté continuer à encourager les ménages dans les forêts, sur les forêts. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forte demande d'industrialisation forestière, il y a une forte demande sur les biocarburants, des demandes allant dans le sens de couper les forêts pour les transformer en plantation de palmiers à huile. C'est des menaces qu'il faut juguler pour arriver à préserver ces forêts-là. Et là, nous demandons, parce qu'on parle de moyens, les moyens qu'on voudrait obtenir dans le cadre d'un fonds vert, parce que c'est des débats au niveau de Cancun, les moyens doivent être mis à profit au profit des communautés, mais aussi au profit des administrations forestières qui doivent faire leur travail de contrôle. Parce qu'on ne peut pas parler d'une gestion durable de forêt s'il n'y a pas de contrôle qui se fait dans ce milieu.
Merci beaucoup, M. René Ngongo. Je rappelle que vous êtes de Greenpeace. C'est une structure qui est très active dans le domaine de l'environnement.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à notre invité. Vous avez suivi nos auditeurs. Ils posent des questions pour savoir. C'est vrai que souvent la RDC est représentée dans ces grandes conférences, ces grandes rencontres sur l'environnement, parce que quand même la RDC a une forêt qu'il ne faudrait pas déconsidérer. Dites-nous, au niveau de ces conférences, quels sont souvent les problèmes que vous exposez pour qu'en contrepartie, nous puissions garder nos forêts?
Merci pour votre question et toutes les questions que les auditeurs ont posées.
Tout juste dans le micro pour mieux vous écouter.
C'est que lorsque vous allez à une conférence de parti, ce n'est pas chaque pays qui défile à la tribune pour dire « Bon, moi dans mon pays, j'ai autant d'hectares de forêt, alors vous devez mettre dans ma caisse autant d'argent. » Les choses ne se passent pas de cette façon-là. Les choses se limitent au niveau des négociations globales. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des forêts tropicales, par exemple, nous essayons de nous mettre ensemble. Donc, tous les pays, les Red Forest Foundation, donc tous ces pays-là se mettent ensemble parce que nous avons des intérêts qui sont communs. Et lorsque vous êtes en groupe comme ça, vous pouvez vous faire entendre au niveau international, plutôt qu'un pays tout seul.
On dit la création du G77.
Voilà. Et lorsque, et le groupe Afrique.
Mm-hmm.
Et lorsque nous présentons là-bas, par exemple, nous sommes tous de la COMIFAT, la Commission des forêts du bassin du Congo. C'est à l'intérieur de ça que nous inscrivons notre liste. Et la RDC joue vraiment le rôle moteur dans la COMIFAC.
Elle, pour l'instant, la présidence.
Oui, pas seulement de la COMIFAC, mais la RDC est le président du groupe Afrique. Donc, tous les groupes Afrique, c'est un compatriote qui est président de ce groupe et qui est le porte-parole du groupe.
Mmh.
Il y a maintenant, au niveau de la COMIFAC, la Commission des forêts du bassin du Congo, eh bien, nous sommes vraiment le pays qui est à l'avant-garde. Parce que lorsqu'on parle des émissions de gaz à effet de serre, destruction des forêts et ainsi de suite, vous savez, je ne vous apprends rien, 60% de la forêt du bassin du Congo se trouve dans notre pays. Donc, nous avons un poids au niveau international.
Et puis nous émettons moins de gaz à effet de serre.
Lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre de toute l'Afrique, ne représentent que 4% du total des émissions de gaz du monde.
Mmh.
Donc, nous sommes vraiment au bas niveau.
En position de force pour les négociations.
Pour dire, nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé, mais nous allons même plus loin. Même nos 4%, nous prenons les dispositions pour pouvoir les réduire.
Mmh.
Et lorsque M. Magaz dit, par exemple, mais il y a...
Magandu.
Il y a des dons qu'on donne à la RDC, le Brésil, il gagne, mais notre pays ne gagne
pas.
Le Gabon a une taxe de carbone, et tout de suite. Et il faudrait qu'il vérifie un peu de quoi il s'agit. Mais parlons plutôt du Brésil. Effectivement, le Brésil a plus de forêts que nous. Mais ce n'est pas par hectare qu'on paye au Brésil la forêt brésilienne, non. Le Brésil, depuis une vingtaine d'années, est en train de gérer sa forêt. Il a même lancé un satellite pour photographier, suivre comment l'évolution de la couverture forestière, et il prend des mesures pour vraiment empêcher la destruction de la forêt. Ce sont ces efforts-là qui font que la communauté internationale vient au secours du Brésil.
Et qui manque à la RDC pour aussi faire de même.
Je vais y arriver.
Mm-hmm.
C'est du fait que tu vas au Brésil pour dire, nous soutenons l'effort que vous êtes en train de mener là-bas. Nous, Norvégiens, nous mettons $1 milliard dans les fonds que vous avez créés pour pouvoir gérer durablement la forêt de l'Amazonie.
Mm-hmm.
Connaissant tout cela, en RDC, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous nous sommes lancés aussi dans la gestion durable de notre forêt. Depuis 2002, la Banque mondiale a volé à notre secours pour apporter des moyens à nos services de gestion forestière. Et souvent, ce que les gens savent ou ne comprennent pas très bien, c'est que la Banque mondiale venait d'accorder un don de $70 millions pour qu'on puisse gérer durablement les forêts dans notre pays. Mais cet argent n'est pas distribué à des personnes, non. Il y a une unité de gestion qui se trouve à Kinshasa, sous le contrôle étroit de la Banque mondiale, pour qu'on n'ait vraiment pas la possibilité d'utiliser cet argent à autre chose. Mais le projet est en train de se déployer à travers les territoires nationaux, pour gérer durablement notre forêt.
Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain? Il y aura des agents qui vont représenter la structure nationale dans les lieux, dans les provinces, mais qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement sur le terrain?
Ce qu'ils vont faire concrètement sur le terrain, c'est relancer les institutions qui doivent gérer la forêt. Et vous voyez, On a commencé par trois provinces où on trouve le plus de forêts. La province de Bandundu, de l'Équateur et la province orientale. Dans ces provinces-là, on apporte de l'assistance au gouvernement provincial qui gère les forêts, à la coordination provinciale qui gère les forêts. On va jusqu'au niveau des territoires, refaire les bureaux, donner les moyens logistiques pour qu'on puisse être présent sur le terrain. On vient de signer aussi un contrat avec la FGS pour organiser les contrôles forestiers à travers ces trois territoires, de façon qu'on puisse combattre l'exploitation illégale et désordonnée dont parlait le monsieur René Ngongo. Donc, il y a ce programme-là de 70 millions qui est en train de se déployer pour prendre vraiment mener la gestion forestière comme il faut. Nous nous sommes aussi embarqués dans la réduction des émissions de gaz à...
Vous êtes même coordonnateur voilà. De ce programme.
Tout va ensemble. C'est que la RED vient en appui à la gestion forestière qui est déjà installée au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Nous avons présenté ce qu'on appelle notre RPP, les plans de préparation de notre pays. Du fait de l'approbation de ces plans de préparation de notre pays, au départ, on nous a donné, parce qu'il parlait aussi des dons qui n'arrivent pas, on nous a donné un montant de 2 millions de dollars par deux structures pour pouvoir préparer notre pays à la RED, et c'était essentiellement pour produire les RPP. Nous avons produit, nous avons soumis, il a été accepté et tout le monde reconnaît qu'il est de grande valeur. Pour produire le RPP, il fallait organiser des ateliers pour consulter la population. Nous avons tenu l'atelier à Bukavu, qui n'a peut-être pas suivi, mais nous avons tenu l'atelier à Bukavu pour consulter ce peuple. Du fait de l'acceptation de notre RPP, les mêmes structures nous ont promis un financement de 8 900 000 dollars qui va être déployé à partir de l'année prochaine jusqu'en 2012 pour préparer le pays, pour amener la crédibilité. Et cette crédibilité commence à venir et commence à rapporter déjà des fruits. De quelle façon? Il y a les fonds de forêt du bassin du Congo qui est d'accord de financer des projets dans notre pays qui s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie nationale pour un montant d'environ 30 millions de dollars. Il y a les fonds d'investissement de la Banque mondiale qui a accepté de financer aussi des projets dans notre pays, toujours parce que ça s'inscrit dans le cadre de la RED, pour un montant qui va varier entre 40 et 60 millions de dollars. Donc vous voyez qu'on commence à parler de millions.
C'est autant de chiffres, nous allons revenir à vous pour savoir que va bénéficier réellement ces communautés qui vivent essentiellement des forêts pour pouvoir les protéger, mais aussi qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir contribuer dans son comportement, dans son attitude pour lutter contre le changement climatique. Mais nous allons d'abord écouter d'autres auditeurs qui se sont déjà inscrits pour participer à l'émission.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end solaire avec moi, samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes à Kirumba, c'est au nord. Qui vous écoute? Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre milieu pour lutter contre le changement climatique?
Oui, justement, le sujet que vous avez abordé là, ça m'intéresse beaucoup parce que il faut dire que d'après un rapport de la FAO que j'avais lu la fois passée, il y a donc d'après ce rapport-là, il y a 14 pays, plutôt depuis 14 ans, il y a 11 ans qui ont été les plus chaudes depuis 1996. Alors, la glace est en train de fondre progressivement. Alors, le cas de la cité de Kirumba, par exemple, les cours d'eau ont séché, les femmes se bousculent à la recherche de points d'eau où on peut chercher de l'eau. Il y a également la grande chaleur torride depuis presque longtemps. Ici chez nous, l'eau presque manque partout.
Et regarde le conseil de Jean-Marie, quel est le comportement, qu'est-ce qui peut être fait pour contribuer contre le changement climatique?
Ok, bon, moi je crois que la première mesure qu'il faut faire est de pouvoir décourager les abatteurs anarchiques de bois. Ces gens qui abattent le bois pour en faire des planches, pour en faire des braises, pour fabriquer des armoires et ainsi de suite, il faut les décourager, planter des arbres, parce qu'il y a une loi qui dit que quand on abat un arbre, il faut le remplacer par 10 autres. Donc c'est ça la première mesure qu'il fallait faire. Et puis augmenter le potentiel de consommation du courant pour tous les Congolais. Et également, les pays qui sont dépollués, la nature, devront aider les autres pays. Alors, ce qui m'étonne est que parmi ces pays qui souffrent, notre pays est parmi ces gens. Il y a par exemple la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, le Burundi, le Libéria, l'Angola, l'Érythrée et l'Ouganda, qui sont les pays indexés déjà par la FAO, des pays qui sont déjà en crise suite à cette avancée du désert. Et je crois qu'il faut renforcer le système qui consiste à pouvoir planter les arbres pour que les êtres humains, les êtres animaux ne puissent pas souffrir de cette situation-là.
Vous avez parlé de la consommation du courant électrique, mais il faudrait quand même savoir que seulement 6% des habitants de la RDC ont accès à l'électricité, ou peut-être vous voulez plutôt voir des électricités qui ne puissent pas émettre des effets des gaz à effet de serre.
C'est ça justement ce que je voudrais faire. Donc, il faut que les ministères, il faut que le gouvernement, à travers les différents ministères, puisse étudier réellement cette question. Parce que, comme je vous l'ai dit, ici à Trombe, il y a deux fois où, sur 12 mois, nous avons 2 mois seulement de pluie. Et puis, ça fait peur, et la grande chaleur pousse beaucoup de familles à pouvoir se déplacer d'ici vers les autres endroits où il y a un peu de gouttes de pluie. Je crois qu'il faut que les ministères essaient de faire un effort à ce qui concerne cette question.
Une situation très sérieuse, hein, c'est sérieux ce que vous êtes en train de me dire. Vraiment, ce témoignage est assez fort pour montrer que, effectivement, le changement climatique ne concerne pas seulement les autres, c'est aussi notre problème. Merci Jean-Marie. Nous prenons Serge de Gouna, bonjour.
Bonjour, non, non, je
suis parti. Oui, Serge, on vous écoute.
Oui, en effet, je pense que les personnes de la situation climatique, telles que nous le connaissons dans plein de concrets, je pense qu'il faudrait peut-être préconiser une chose.
Mm-hmm.
À mon sens, je pense plus que, vous savez, les facts, ce qu'on est en train de connaître dans les pays qui continuent la population, c'est fait aussi ressentir. Il y a une chose que nous aussi, la population, nous devons retenir.
Oui.
Aujourd'hui, pour voir la dégradation quotidienne de notre environnement, c'est d'abord les ménages, c'est d'abord tout et chacun de nous qui doit aussi être responsable dans des vies, des gestions quotidiennes de ces ressources naturelles. Mais je voudrais aussi appeler l'aspect.
Oui.
Aujourd'hui, il y a des soucis qui sortent aujourd'hui au niveau du gouvernement, notamment le ministre de conservation de la nature et du tourisme, et puis il y a d'autres effectifs. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il y a à leur niveau, sont en train de fournir comme un feu, du point de vue des populations primaires, donc du pas peuple.
Mm-hmm.
Parce que là, on se pose un problème
mm-hmm.
du point de vue de la localisation, du point de vue de gestion.
Oui, comment encadrer ces populations pour éviter ce désagrément? Merci Serge de Gounia. Bonjour, monsieur Zéphirin Kassini.
Bonjour, madame.
Je rappelle que vous êtes député national, vous êtes même vice-président à la commission des ressources naturelles et environnement au niveau de l'Assemblée nationale. À votre avis, que faut-il faire pour participer, contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Merci madame de me poser une telle question. Je dois d'abord vous dire que je suis heureux parce que maintenant le monde entier va d'une conférence à une autre pour la question du changement climatique.
Mm-hmm.
Ça veut dire que ça devient de plus en plus préoccupant. Et moi je crois que tout le monde doit en prendre conscience. J'aimerais que cette conscience soit de plus en plus aiguë pour tout le monde, pour les décideurs, et surtout pour les grands pollueurs qui sont la Chine, les États-Unis, l'Europe et les autres pays.
Mm-hmm.
Mais cela n'exclut pas notre responsabilité à nous, parce que la responsabilité est collective en fin de compte. Sinon, nous allons nous-mêmes signer notre suicide collectif si nous n'arrêtons pas. La population, moi, à mon sens, doit participer activement et aux actions de tout ce qui influe sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre,
mm-hmm.
qui sont responsables des changements climatique.
Et quelle attitude peut adopter la population, selon vous?
La première chose, madame, moi je crois que il faut arrêter la déforestation. Parce que quand je me rends compte qu'une grande partie de notre pays est dévastée, je prends l'exemple du Bas-Congo, quand je vais sur la route, tous les jours, je vois des fardeaux de bois.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié à l'être humain, c'est normal que nous puissions utiliser le bois, mais plutôt qu'on puisse assurer l'équilibre entre la déforestation et le reboisement?
La déforestation, ça demande aussi, ça inclut l'effort de reboisement.
Mm-hmm.
Oh, ça, on peut le faire. Chaque personne peut le faire. Les villageois peuvent le faire. Et mandio, ça pousse de soi-même. Et on peut l'entretenir et avoir tout un grand champ de mandio. C'est un effort commun que nous devons faire tous ensemble pour, en fait, arrêter l'émission de gaz à effet de serre. Même l'agriculture, le surbrûlé, ça contribue à la production de gaz à effet de serre.
Mais s'il vous plaît,
oui, madame.
Vous voulez, monsieur le député, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait une loi sur l'environnement, une nouvelle loi qui a été adoptée. Et est-ce que dans cette loi figure, par exemple, des sanctions contre les personnes qui vont déboiser sans reboiser?
Oui, absolument, madame. Nous avons pris toutes les préoccupations parce que nous pensons que la question des pollutions, la question des réchauffements planétaires et des changements climatiques sont des questions urgentes et permanentes qui en fait, doivent être intégrées dans les pensées quotidiennes de chaque personne.
Et à l'écran, à ce moment précis, se trouve encore la loi? Est-ce qu'elle a déjà été adoptée par les deux chambres ou en cours de promulgation?
La loi va être adoptée cette semaine, madame, et elle sera promulguée, je crois, même avant janvier, par le président de la République.
Elle restera plutôt des instruments pour appliquer cette loi.
Oui, ça sera du ressort du gouvernement, et nous croyons que nous allons faire pression pour que l'application soit urgente et efficiente.
Merci beaucoup, monsieur Zéphirin Kassindi. Je rappelle que vous êtes député national et vice-président de la commission qui est chargée de l'environnement au niveau de l'Assemblée nationale.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Léon Kanoumbidi, nous revenons à vous. Encore une fois, les avis des auditeurs, la plupart sont revenus sur le principe déboisé-reboisé. Mais est-ce qu'il y a déjà des plantules qui sont mises à la disposition de toutes ces populations, des graines, pour les aider à pouvoir reboiser?
Disons qu'au niveau de notre pays, la question reboisement préoccupe le pays depuis très longtemps. Nous avons un service national de reboisement qui a déjà réalisé pas mal de projets à l'intérieur du pays. Ainsi, vous allez trouver, parce que le premier problème urgent, je crois que vous avez suivi, un des auditeurs l'a dit, c'est qu'autour des grands centres urbains, tout ce que vous avez comme forêt est en train de disparaître pour la production de l'énergie bois. Eh bien, c'est le premier problème que le ministère de l'Environnement a cherché à agresser. C'est ainsi que vous allez voir, les gens ne le savent pas, sur le plateau de Bateke, le ministère de l'Environnement a acquis une concession de 100 000 hectares pour faire du reboisement en bois de feu. Et il y a déjà une superficie de 8 000 hectares qui a été reboisée.
C'est pour qu'il tient ça, mais le pays, on a plus de 2 345 000 km carrés.
J'ai continué, effectivement, j'aurais dû commencer par l'intérieur du pays pour finir par Kinshasa. Oui. Mais comme j'ai commencé déjà pour Kinshasa, laissez-moi terminer. Donc, il y a 8 millions d'hectares de forêts qui ont été reboisées sur les plateaux de Bateke. Et plusieurs personnes ont quitté Kinshasa, sont parties s'installer dans ces boisements-là. Ils reçoivent 25 hectares chacun, qu'ils coupent pour produire du charbon de bois, et ils ont l'obligation de replanter tout de suite, et ça se fait. Ça signifie que les 8000 hectares seront toujours là, en train de produire du bois pour Kinshasa.
Mm-hmm.
Et ils vont continuer, mais le ministère va lancer d'autres projets pour étendre ces superficies. Mais comme vous voulez qu'on parle de l'intérieur du pays, eh bien, à l'intérieur du pays, vous trouvez un projet de reboisement à Mbujimayi, vous en trouvez à Kananga, vous en trouvez à Lubumbashi, vous en trouvez à Bukavu, vous en trouvez à Mbandangungu, vous en trouvez dans les forêts du Mayom. Donc, partout où les problèmes se posent avec Yakouté, le ministère de l'Environnement a tout de suite lancé des programmes de reboisement, des projets de reboisement qui, justement, produisent les plans qu'on peut distribuer à la population, initier les populations, comment produire les plants eux-mêmes, parce que ce n'est pas si compliqué de produire les plants soi-même, mais c'est souvent l'information qui manque. Et cette information, on est en train de s'organiser maintenant au niveau de la RED pour sillonner vraiment tous les territoires nationaux, pour apporter l'information, parce que c'est l'information qui manque souvent à la population, que faire pour lutter contre telle situation qui se présente devant elle.
Oui, mais aussi, il y a eu cette préoccupation de notre auditeur Agangé de Bukavu concernant le gaz méthane. C'est vrai qu'ils ont une préoccupation, ça ne fait pas vraiment partie du sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, mais quand même, ils ont des inquiétudes. Que pouvez-vous leur dire?
Je crois que les inquiétudes sont fondées. Si on se souvient qu'il y a les lacs Niot au Cameroun, où il y avait beaucoup de gaz, et il y a eu une explosion qui a entraîné la mort de plusieurs personnes. Donc lorsqu'on dit exploiter les gaz méthane contenus dans les lacs Kivu, c'est tout normal que les gens se posent la question, est-ce que nous n'allons pas vivre la situation du lac Niot au Cameroun? Mais là, c'est un problème des experts qui sont branchés sur les dossiers. Le Rwanda a déjà commencé à exploiter les gaz méthane de son côté. De notre côté aussi, il faut que les études avancent pour qu'on puisse assurer une exploitation qui ne met pas la population en danger.
Mais aucune préoccupation avec ce changement climatique. Est-ce que le lac Kivu aussi est en train de se rétrécir?
Bon, ce n'est pas encore très perceptible en ce moment-ci, mais du fait que les pluies ne tombent plus de façon régulière, on est partout en train de craindre ces phénomènes, dont le plus important est arrivé au lac Tchad. Le lac Tchad aujourd'hui ne représente plus que 10% de ce qu'il était du temps où il pleuvait normalement. Donc ce sont des craintes qui sont fondées, c'est pour ça qu'on se dit, étant donné que nous sommes tous responsables à un certain niveau, bien que les responsabilités soient différenciées, que chacun mène des actions pour prendre en compte au moins sa responsabilité, et les actions communes et collectives feront que la situation va se redresser.
Oui, nous allons suivre d'autres auditeurs qui veulent participer à cette émission. Je rappelle, c'est le 081-899-6315 ou pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes à Walikale. Quelles sont vos propositions pour pouvoir contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Moi, je n'ai qu'une seule contribution, et on l'a déjà dit, c'est les reboisements. Parce qu'apparemment, nous, la population, nous ne voyons pas clairement ce que fait le ministère de l'Environnement. Nous ne voyons que l'environnement venir faire payer des taxes, quand les gens ils abattent les bois comme ils veulent, ils font les forces avec le bois, et nous constatons, moi je donne par exemple la Beni, il y a toute une collectivité Mao par exemple, là on le voit, le but c'est plus, et la forêt est décapitée complètement, et je vois Kuturu dans les groupements de Pinga, la forêt n'existe pas, si au moins les gens de l'environnement faisaient aussi les reboisements, même avec le moyen des bois, juste conscientiser la population, nous assistons à des espèces qui sont en train de disparaître, je vois à Beni les Ligoyos, a disparu complètement. Et là, je parlais à Binda dans les routines. L'estime là a disparu complètement. Mais tout ce qui est protégé, c'est là, conscientiser les gens, donner des réunions, faire des réunions avec la population et conserver la forêt. Je vous remercie.
Merci Benoît. Donc, vous souhaitez que les actions du ministère de l'Environnement soient vraiment plus visibles. Nous prenons John Peter, ce sera notre dernier auditeur de cette émission. Bonjour John Peter.
Bonjour madame, à ce niveau du débat, je n'ai plus que quelques propositions à vous faire.
Oui.
concrètement pour la RDC, pour lutter contre le réchauffement climatique, ça ne demande pas des millions de dollars ou alors des taxes, mais une politique bien définie de la gestion de l'environnement. Mmh. C'est-à-dire concrètement que, primo, il faut voter, il faut plutôt éduquer la population sur la culture des arbres. Secondo, il faut que pour un arbre coupé, toute société exploitant les bois en cultive au moins 5 à 10. Tertio, il faut que les services de l'environnement veillent sur les feux de brousse et punissent ceux qui brûlent chaque année nos savanes, ce qui peut se faire aussi en amont par la formation et la sensibilisation de la population sur les conséquences des feux de brousse. Et enfin, quarto, il faut cesser de répéter les slogans selon lequel la RDC est le deuxième poumon climatique du monde, mais prendre conscience que le désert du Sahara avance dangereusement, surtout dans le nord de la province orientale, dans les sud du Haut-Uele et du Turi. Et on se fait voir par le fait que les savanes qui étaient jadis boisées deviennent des savanes herbeuses. C'est cela, mes quelques propositions.
Merci beaucoup, John Peter. Alors, nous avons un tout dernier. Cette fois-là, c'est Cyril Adebo, qui est coordonnateur d'une structure qui se lance dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, une structure nommée Océan, qui évolue à Kisangani, en province orientale. Bonjour, Cyril Adebo.
Bonjour, madame.
Nous prenons un dernier. Pour vous, quelles sont les propositions pour pouvoir contribuer dans la lutte contre le changement climatique?
Alors, je crois que le travail sur le changement climatique doit d'abord commencer par le respect des textes. Donc, le texte sur la gestion des forêts. Le texte qui existe et qui peut permettre à ce qu'on gère bien les forêts. Donc, dans les différents secteurs, d'abord dans le secteur forestier, mais aussi dans le secteur minier, où il y a des dispositions légales, réglementaires, concernant la gestion de l'environnement, la gestion des impacts, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier palier. Un deuxième palier, c'est la responsabilité des usagers à pouvoir utiliser des pratiques qui puissent conserver l'environnement. Et là, nous pensons que les communautés doivent jouer un grand rôle du fait que il y a des communautés qui utilisent encore l'agriculture dans ce pays, et donc pour lesquelles il faudra avoir des pratiques de sédentarisation qui permettent de gérer les espaces agricoles convenablement et de façon durable. Et un autre aspect, c'est la gestion de l'urbanisation. Parce qu'en fait, les villes chez nous ont une forte demande de bois. Et donc, on devra s'assurer qu'on ait de nouvelles sources d'énergie. Et si pas cela, alors on doit, à chaque fois qu'on utilise le bois énergie, il faut planter des arbres pour pouvoir remplacer le bois qui a été utilisé. Et je dirais enfin, parmi les facteurs de la déforestation, c'est le fait qu'il y a de fortes demandes dans les commerces au niveau international de matières ligneuses. Et nous prenons l'exemple de l'Est, où il y a beaucoup de bois qui y va. Donc il faut vraiment réglementer ce commerce, et bien sûr, bien que, bien entendu, on doit travailler, on doit livrer les produits miniers dans les autres parties du monde, mais ça doit se faire sans qu'il y ait beaucoup d'impact au niveau de la forêt.
Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes coordonnateur d'une ONG qui est active dans le domaine de la protection de l'environnement, et votre ONG s'appelle Océan. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous allons donner la parole à notre invité, bien sûr, parce que nous sommes à la fin de l'émission, pour une conclusion, mais aussi pour répondre aux dernières préoccupations de nos auditeurs, le rôle de la communauté, et aussi que va-t-elle bénéficier concrètement au regard de tous les chiffres que vous avez donnés au cours de cette émission.
Merci pour la parole, Marie-Chantal. Pour résumer le débat, puisque nous sommes arrivés vers la fin, il faut plutôt se rappeler, lorsque nous prenons toutes les émissions de gaz à effet de serre émises par de notre pays, quelles sont les causes, quelles sont les sources? Eh bien, aujourd'hui, c'est connu. Environ 78% de ces gaz à effet de serre proviennent plutôt de l'agriculture, changement des sols, ainsi de suite, destruction des forêts. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur la RED dans notre pays, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que nous appréhendons pratiquement 80% des émissions de notre pays. Mm-hmm. Et comme l'a dit René Ngongo, il faut connaître les causes. Il y a une étude qui est en train d'être menée pour qu'on détermine le plus précisément possible quelles sont les causes de la déforestation et essayer de donner la responsabilité de chaque cause. Mais le volet suivant, c'est la stratégie nationale RED qui tient compte des causes et propose des mesures pour combattre chaque cause.
Mais qui va bénéficier la population?
La population va bénéficier à l'intérieur de tout cela parce que lorsque nous voulons agresser les causes, et pour mettre la relation aussi avec les millions dont j'ai parlé. Les millions, c'est pour initier des projets sur le territoire national. Vous parlez, par exemple, des districts de Maïndombe. Mais dans les districts de Maïndombe, on va prendre tous les districts pour essayer de gérer, de voir tous les problèmes qui se posent et comment les résoudre.
En étant au centre, la population.
La population, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de reboisement partout, nous parlons des 60 millions qui viennent du FIP. Les 60 millions ne vont pas être versés dans les caisses de l'État, mais c'est pour financer des projets à travers les territoires nationaux. Donc, initions des projets de reboisement que nous présentons pour utiliser cet argent.
Un dernier mot, en gros, la situation vraiment de la RDC n'est pas aussi préoccupante que plus les autres pays dans le monde qui sont vraiment en train de polluer. Donc, quel est encore l'effort que peut faire la RDC pour pouvoir contraindre les autres pays à pouvoir moins polluer?
Non, ce discours-là est dangereux. Tout le monde est responsable. Nous sommes responsables d'une quantité d'émissions. Mais au niveau des négociations, justement, nous poussons les autres pour que chacun puisse s'y porter ses responsabilités.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons ici à la fin de cette émission et nous disons à nos auditeurs que demain, nous aurons un autre rendez-vous avec Parole aux auditeurs.